Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Nous commencerons par la clôture mercredi dernier à Kinshasa de la tripartite CENI-SENSA gouvernement. Les trois parties recommandent à la CENI de publier sans tarder un calendrier électoral réaliste et de lancer l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Ensuite, nous parlerons de la RDC qui va siéger au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les trois prochaines années à dater du mois de janvier prochain. Le pays a été élu avec 151 voix sur 193 votants lundi dernier à New York, malgré les contestations de certaines ONG nationales et internationales ainsi que les États-Unis. Pour en parler, je reçois Richard Chaco. Bonjour, cher confrère.
Bonjour Alain Roux et bonjour aux amis auditeurs de la Radio de la Paix.
Merci beaucoup. Vous êtes rédacteur en chef à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir. José Boroto, bonsoir, cher confrère.
Bonsoir Alain Roux et bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi.
Merci. Vous êtes journaliste indépendant. Ali Boukassa, bonsoir.
Bonsoir Alain Irung.
Vous êtes journaliste et coordonnateur à l'agence LUCOM, basée à Mweneditu, dans la province de la Lomami. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine. Voyons comment la presse kinoise les a traités dans cette revue de presse que nous présente Guy Maté. Bonsoir Guy.
Bonsoir. La clôture de la tripartite CENI-SENSA gouvernement ainsi que l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont occupé la une de la presse kinoise. Il y a également les sommets de la CIRGL à Brazzaville qui défraient la chronique. Pas de calendrier électoral ni d'indication sur sa publication. La tripartite CENI-SENSA gouvernement a accouché d'une souris, estime 7 sur 7.cd, qui annonce que le calendrier électoral, tant entendu, n'a pas été publié. Puis encore, pour sous ce site, aucune indication précise n'a été donnée pour sa publication. Les flous sur le processus électoral demeurent donc, conclut-il. Politico.cd titre, Joseph Olongakoy dément avoir signé le communiqué final de la tripartite. Ce site qui reprend l'interview que le président du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral CNSA a accordé à Jeune Afrique, annonce que Olongakoy affirme n'avoir jamais signé le communiqué publié à l'issue des travaux de la tripartite mercredi dernier à Kinshasa. Au sujet de l'admission de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le phare titre « Droits humains, le vrai défi de la RDC ». Et ce journal de renchérir, faire partie des 55 États aujourd'hui désignés comme membres de cette commission, a certes réjoui plus d'un Congolais et fait les choux gras de certains milliers sociopolitiques du pays. Maintenant, il est question de faire preuve d'un engagement sérieux et sincère dans l'application stricte de ces principes fondamentaux inscrits en lettres d'or dans la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme il fallait s'y attendre, c'est le gouvernement des États-Unis d'Amérique qui a été le tout premier de la planète à émettre de vives protestations contre cette désignation. Sur le chapitre politique, politico.cd titre « Kabila de nouveau chez Sassou ». Ce site précise que le président Joseph Kabila est arrivé mercredi à Brazzaville pour participer au 7e sommet de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, en République du Congo. Nouveau président en exercice de la CIRGL, Denis Sassou Nguesso, veut accélérer le règlement des conflits, annonce pour sa part L'Avenir, qui rapporte les propos du président congolais lors de son allocution d'ouverture de la 7e session de cette organisation sous-régionale. Ne perdons jamais de vue le fait que les difficultés d'un côté de chaque frontière traverseront inévitablement la séparation artificielle pour se répercuter dans les pays limitrophes, a insisté le nouveau président de la CIRGL. À propos de la visite ce samedi à Kinshasa de l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, la tempête des tropiques, titre sur sa manchette, probable vérité de l'émissaire de Trump à Kabila. Crise à l'Assemblée nationale, au Bémina Koujou à la sagesse, notre forum des As, et ce quotidien d'annoncer que, face à la persistance des divergences sur la portée d'une motion incidentielle, le speaker de la Chambre basse s'en remet à la Cour constitutionnelle pour qu'elle interprète en des termes faciles son propre arrêt.
Merci Guy Maté. Richard Chaco, rédacteur en chef à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir. En dehors des sujets que nous avons choisis pour ce soir, l'actualité était dominée par plusieurs autres sujets. Lequel aimeriez-vous commenter?
Oui, l'actualité que je veux commenter, je crois que Guy Maté a chuté par là, c'est la crise qui continue au sein de l'Assemblée nationale. Le président Obeminaku a décidé de recourir à la Cour constitutionnelle pour interpréter sa propre loi. Vous savez que depuis près de 2 semaines que les plénières se tiennent à l'Assemblée nationale sans l'opposition qui a claqué la porte pour avoir trouvait que la majorité parlementaire a violé les compromis trouvés selon lesquels aucune motion incidentielle ne peut enfreindre à une motion de censure de déchéance. Alors, je crois que le fait que le président de l'Assemblée nationale ait décidé de saisir une fois de plus la Cour constitutionnelle, je me dis, la Cour constitutionnelle qui, il y a à son temps, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les problèmes, parce que la question de la motion incidentielle ne se retrouve pas dans la Constitution. Là, c'est une disposition du règlement intérieur, règlement qui régit la Chambre basse du Parlement. Je ne vois pas comment la Cour peut encore se dédire. Je crois que la réponse est d'emblée claire, que la Cour va encore une fois de plus dire que non, je suis incompétente pour traiter cette matière parce que moi, ça ne me relève pas. Moi, je pense que la voie de la sagesse, c'est que le président Obe Minaku devra approcher l'opposition comme lui avait recommandé le député Thomas Lokondo. Ça ne sert à rien de recourir à la Cour constitutionnelle parce que vous allez tourner en rond, approcher le député de l'opposition, demander réellement qu'est-ce qu'il y a et puis trouver un compromis. Sinon, nous irons de blocage en blocage. Et là, c'est certaines lois que la République en a besoin qui vont souffrir.
Alors, Richard Chacko, parce que vous faites allusion à la crise qui sévit à l'Assemblée nationale, toujours à l'Assemblée nationale, certaines informations qui filtrent indiquent que le service courrier de cette institution fonctionne à double vitesse pour notamment empêcher le dépôt de la pétition contre le président Obe Minaku.
Je sais pas ce qu'on a appris aussi. Moi, ça ne m'étonne pas parce que vous savez que le député Toussaint Alonga avait dit, celui-là même qui était l'auteur de la pétition contre le président Minaku, suite à ce que j'ai relevé ici, la motion de défiance contre deux membres du gouvernement ont été contraints et il a décidé de déposer une pétition. Il a même dit qu'il avait déjà récolté plus de 60 signatures. Alors, il fallait déposer ça. Est-ce que vous pensez que le service courrier de l'Assemblée nationale seront-ils disposés à recevoir cette pétition-là?
Là, qui c'est a un effet suspensif
en oui, il y a là, il n'y a pas aussi d'abord un problème. Le problème, c'est qu'une fois la pétition est déposée, il faut la programmer la plénière. Et c'est là où la majorité refuse des surprises. Il ne faut pas dire que si l'opposition, je prends l'exemple, a un effectif de 150 députés, et lors des votes, ça ne m'étonnerait pas de voir que la pétition est obtenue 180. Ça veut dire que certains membres de la majorité qui ne veulent pas s'exprimer vont voter pour la pétition. Merci. C'est là le problème.
José Boto, vous êtes journaliste indépendant. Quel est vous l'actualité que vous souhaitez commenter?
Bon, en fait, allez, moi, c'est dans la même logique que mon frère Richard, hein, mais moi, je parlerai plutôt de la sonnette d'alarme de président de l'Assemblée provinciale que j'ai entendue, je crois, il y a deux jours, parce qu'il s'est fait qu'au niveau des assemblées provinciales, ça fait aujourd'hui dans le 6 ou 7 mois et que les députés provinciaux n'ont pas leurs émoluments. Et moi, j'ai peur parce que ces assemblées provinciales, la façon dont elles fonctionnent, elles s'accrochent plus pour se faire un peu de beurre au niveau des gouvernements provinciaux, quoi. Alors, du moment que les députés provinciaux ne sont pas payés, est-ce que ça nous étonnerait qu'il y ait des motions alimentaires à gauche et à droite pour tous ces pauvres gouverneurs des provinces? C'est ça aussi le problème, quoi. Ça c'est une actualité qui m'a marqué parce que c'est des fondements, en fait, de notre démocratie. Alors, comme on dit, un ventre creux n'a point d'oreille. Donc, ne nous étonnons pas que plus tard, même le gouverneur qui vient d'être élu, il n'y a pas deux mois ici, qui vient d'être confirmé, qui commence à avoir des problèmes avec leurs assemblées provinciales parce que les assemblées provinciales vont demander que le gouverneur leur donne de l'argent. Or, les caisses des provinces aussi, même ces fameuses rétrocessions, se font en compte-gouttes et les gouverneurs n'ont pas suffisamment de moyens pour gérer, je veux dire, le quotidien des provinces. Et alors, donner encore de l'argent aux députés provinciaux pour leur survie. Attendons-nous encore à pire, hein, Alain.
Alors, en parlant des assemblées provinciales qui triment, il y a les présidents des assemblées provinciales qui sont ici à Kinshasa, abandonnés à leur triste sort et qui ont lancé un cri d'alarme que nous avons diffusé ce vendredi sur Radio Okapi. Ils étaient venus à Kinshasa de passage pour aller à Goma assister à la conférence des gouverneurs, conférence reportée, mais ils sont ici à Kinshasa abandonnés à leur triste sort. José Boto,
c'est une sorte de révélateur, en fait, hein, de ce qui se passe effectivement dans notre pays. Moi, je ne sais pas si notre pays aujourd'hui doit faire un dépôt de bilan, hein, la RDC, hein, le gouvernement congolais, parce que financièrement c'est catastrophique. C'est tout le monde qui se plaint. Tout à propos, là, j'ai suivi aussi la réaction de monsieur Mende, Lambert Mende, le ministre de la communication et des médias, qui a dit que même au niveau du gouvernement aussi il y a ces problèmes-là d'argent, ils n'ont pas des frais de fonctionnement, ça fait 2, 3, 4 mois, voire même 4 mois pour certains cabinets ministériels. Alors moi je me dis que, est-ce que le pays n'est pas en faillite là?
Ali Boukassa, vous êtes journaliste et coordonnateur de l'agence Lucom, basée à Mouenéditou, dans la province de la Lomami. Qu'est-ce qui fait l'actualité dans votre province aujourd'hui?
Merci Alain de l'invitation, parce que c'est la première fois que je prends place à cette tribune après le passage triste de ce mouvement que beaucoup ont trouvé d'appeler insurrectionnel. Permettez que je dise un mot de compassion à toutes ces familles qui se sont vues dépouillées, éplorées et qui continuent jusqu'à ce jour à vivre dans des conditions difficiles.
Vous faites allusion aux exactions de la milice Kamuina Nsapu.
Vous le dites, merci Alain. Cela dit, ici, l'actualité dans la province de Lomami, je suis dans la ville de Mouenéditou, c'est que depuis bientôt une semaine, il s'est vu une polémique entre certains services générateurs de recettes et la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, notamment certains opérateurs économiques. À la base, il y a deux correspondances supposées venir de la primature. La première suspendant l'émission des contrôles de tous les services générateurs de recettes, et la deuxième clarifiant l'émission des contrôles entreprises par les services de l'État. D'un côté, on est pour la levée de la suspension, sinon la clarification de cette mesure, mais de l'autre, ici, dans les camps des opérateurs économiques, on remet l'authenticité de cette dernière lettre en cause. Parce que pour elle, pour cette partie donc, il y aurait certains éléments qui, à leurs yeux, seraient en train de contredire l'authenticité de cette lettre de la primature supposée. Donc c'est un peu ça ce qui fait
l'actualité.
La une ici dans la province de Lomami. Et le week-end dernier, c'est le directeur adjoint du cabinet du ministre national de l'EPSP qui est venu déposer un lot important de cahiers, donc des fournitures scolaires comme on a appelé, pour le bénéfice de tous ces enfants élèves des écoles sinistrées par le mouvement supposé Kamuina Nsapu.
Merci Ali Boukassa. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Clôture mercredi dernier à Kinshasa de la tripartite CENI-CENSA-Gouvernement. Les trois partis recommandent à la CENI de publier sans tarder un calendrier électoral réaliste et de lancer l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Dans son discours de clôture, le Premier ministre a réaffirmé sa détermination d'organiser, je cite, « les meilleures élections de l'histoire du pays dans le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre ». Fin de citation. Bruno Tshibala dans ses propos recueillis par Michel Kifindangoy.
La CENI dispose maintenant, à l'issue de ses travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier, dans le plus bref délai, le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Le régime démocratique et républicain que nous avons choisi ne peut s'enraciner dans notre société que par la tenue des élections à intervalles réguliers et qui soient transparentes et crédibles. C'est pourquoi le gouvernement fera tout ce qui est possible pour remplir toutes les obligations en rapport avec l'organisation des prochaines élections, telles qu'elles sont prévues dans l'accord politique du 31 décembre 2016. J'espère que la communauté internationale fera de même en ce qui concerne ses propres engagements qu'elle a souscrit en vue d'apporter son soutien matériel et financier au processus électoral en cours dans notre pays. En attendant la publication imminente du calendrier électoral, je lance un appel à tous les Congolais de rester calmes.
Voilà, c'était Bruno Tshibala, le Premier ministre. Richard Chaco, rédacteur en chef à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir. Certains observateurs estiment que la tripartite a accouché d'une souris. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je partage totalement ce point de vue parce que rien de nouveau n'a été sorti de la tripartite. Tout ce qu'on a dit là-bas, c'est déjà entendu, déjà largement même entendu. Je vais d'abord commencer sur le plan de la forme. La tripartite, en réalité, c'est, on a dit, c'est la deuxième tripartite parce que la première s'était déroulée à Kananga, même si au niveau du CENSA ça posait problème. Olyanko ne s'était pas déplacé, c'était Lumanu qui s'est déplacé, on ne sait pas pour quelle raison. C'était d'abord la CENI qui a commencé, puis finalement elle a été rejointe par le gouvernement et Adolphe Lumanu comme membre de la tripartite. En réalité, quand on dit tripartite, tel que le dit l'accord du 31 décembre 2016, c'est, on dit c'est l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord rapport du 31 décembre 2016. Évaluation veut dire quoi? Parce que cet accord repose essentiellement sur les processus électoraux. Ça veut dire que le gouvernement, qui est aussi partie prenante de l'accord, devrait donner les moyens financiers et les moyens, ce qu'il faut le dire, législatifs, même logistiques, à la CENI pour organiser les élections. La CENI, quand on lui donne les moyens, organise les élections. Et le CENSA est là comme une police, si je peux le dire, politique, pour répondre et reprendre le propos de Mme Eve Bazaïba. C'est comme une police. En réalité, s'il fallait faire, c'est le CENSA qui devait organiser, qui devait être au milieu, parce que Olerenko est là, Corneille Nangue à côté, et puis le gouvernement Tshibala à côté.
C'est le CENSA qui devait coordonner même.
Coordonner. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est le Premier ministre, même si on l'a dit qu'il était le représentant du chef de l'État, qui a presque présidé les travaux. Et le CENSA était comme accompagnateur. Et c'est que vous avez même remarqué, lors de la clôture, la sainte colère piquée par Olenan Koy, qui, au lieu de signer, a paraffé. Ça, c'est le plan de la forme.
Déjà, parce qu'on est sur la forme, Richard Chaco, quand Olenan Koy, président du CENSA, paraffe, finalement, ça pose un problème de droit.
Ça pose un problème de droit parce qu'il n'a pas signé. Pour crédibiliser, pour authentifier réellement le document, il devait signer, pas paraffer. Paraffer, ça veut dire comme si, comme on dit, sous réserve. Là, ça pose un problème. Selon certaines informations, c'est que il semblait que le rapport final lu par les rapporteurs du CENSA n'était pas en réalité ce qui a été décidé. Les indiscrétions disent qu'on lui a donné un autre texte. Là, c'est ce qui a provoqué même qu'il y ait encore. Ça, je voudrais qu'on puisse préciser sur le plan de la forme. Sur le plan du contenu. Les résolutions qu'on connaît, on a demandé à la CENI de publier un calendrier réaliste. Encore faut dire, ça veut dire quoi un calendrier réaliste? On félicite la CENI pour l'enrôlement de 42 millions d'électeurs et puis on dit de préparer l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Quand on ne le sait pas. Tshibala qui prend la parole, le Premier ministre, dit que non, il réitère son engagement de doter le pays des meilleures élections que le pays n'a jamais connues. Ça veut dire quoi? Tout ce que on a dit, c'est déjà entendu. Qu'est-ce que la population peut retenir? D'ailleurs, la question de 504 jours après l'enrôlement que Nang avait proposé, comme si on l'a avalisé, on n'a pas demandé aux parties prenantes de faire des moyens pour qu'on puisse réduire.
La tripartite ne s'est pas prononcée.
Non, c'est pas. Au contraire, Corneille Nangue avait même dit, si on ne donne pas des moyens, on peut aller même au-delà des 504 jours. Ça veut dire quoi? Les meilleures élections que le Premier ministre Tshibala avait données aux Congolais prendra autant de temps. C'est ça le problème.
José Boto, vous êtes journaliste indépendant. Vous avez suivi Richard Chaco qui s'est étendu sur le fond et la forme. Qu'auriez-vous souhaité entendre de cette tripartite?
Moi, j'aurais... j'attendais de cette tripartite que le CNSA joue vraiment son rôle de, comme on a dit, hein, de gendarmes ou des policiers ou de père fouettard, quoi. Pour mettre tout le monde au pas, entre guillemets, dans ce qui concerne, le respect et la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais c'est pas ce qu'on a vu, malheureusement. Alors, ce qui me tique un peu, c'est rôle d'accompagnateur du CNSA. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer finalement? Parce que là, c'était juste pour l'évaluation de ce qui s'est passé, de la première étape, l'étape enrôlement. Alors, quand ce seront les grandes décisions du genre, discuter maintenant du calendrier électoral, ce sera comment? Hein? Moi, j'ai peur que le CENSA ne joue pas son rôle, le rôle qu'on attend de lui, et que ça puisse n'être qu'une caisse de résonance, comme on dit, du gouvernement et de la CENI. Ça ne fera que avaliser ce que le gouvernement et la CENI auront décidé. Malheureusement, c'est à quoi on doit s'attendre de la part de ces CENSA, Alain.
Alors, il y a ce problème, cette polémique autour de la signature du président du CENSA. Il n'est pas d'accord, il est d'accord, et n'aurait-il pas fallu qu'il s'exprima clairement?
Oui, moi j'ai lu sur les réseaux sociaux, je crois, hein, ouais, sur les réseaux sociaux, la déclaration de Yankoy, il a dit qu'effectivement il n'a pas signé. Il n'a fait que paraffer. Parce qu'il paraît qu'il a une grande signature, une très longue signature là. Il a une très longue signature. Et on a vu là qu'une simple... le paraffe de Léon Koy. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une crise de... Je dis de confiance. Hein, une crise de confiance entre, enfin, ou même une sorte de dualité qui commence déjà à germer entre les anciens, je peux appeler où ils sont, je sais pas s'ils continuent à être des alliés jusqu'à aujourd'hui, Tchiba, Layo, les Ngankoy, parce qu'ils sont sortis tous du même sac, hein, de
rassemblement.
Le rassemblement, elle, Kassavubu. Et aujourd'hui, si déjà il y a une fissure au niveau de ces structures-là, je sais pas à quoi on doit s'attendre prochainement, là.
Alors, le péché originel, José Bohoto, ne serait-il pas finalement la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre?
Oui, c'est justement ça. Parce que tout le monde le sait. La mise en application de cet accord du 31 décembre 2016, tel que c'est fait actuellement, c'est pas la vraie mise en application. C'est pas ça la vraie manière de mettre en application cet accord-là. Et tout le monde le sait. Mais on joue à un jeu, je sais pas, on joue à un jeu de dupes, comme on dit. Et tout le monde croit que c'est la meilleure manière de le faire, alors que tout le monde le sait que c'est pas ça. C'est en fait le processus a été biaisé dès le départ. Dès le départ déjà on savait que c'est du faux, quoi. Enfin, excusez-moi là, hein, c'est du faux. Donc tout ce qu'on est en train de vivre, c'est juste une pièce de théâtre bien orchestrée, et on sait à quoi cela va aboutir. Voilà.
Ali Boukassa.
À un échec, en fait.
Voilà, merci. Ali Boukassa, journaliste et coordonnateur de l'agence Lucom, basée à Mouenéditou, en province de la Lomami. Entre déception et colère, vous vous situez à quel niveau?
Je trouve que c'est le cas de dire, de parler de deux. La colère, parce que avoir ce que l'on rapporte de Joseph Olengankoy, président du CNSA, c'est qu'il a été en colère. Déception parce que, vous savez, le rôle très religieux que l'on a donné au CNSA, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le théâtre actuel vécu à la clôture de la deuxième tripartite, il y a de quoi se voir déçu, et surtout la nation congolaise, parce qu'aujourd'hui, on se disait, beaucoup de gens se disaient que s'il y a quand même une lueur d'espoir, elle ne pourrait que venir de la deuxième tripartite, parce qu'elle arrivait au moment où on parlait 504 jours, quand est-ce qu'on aura les élections, quand est-ce qu'on aura le calendrier électoral. Mais la manière dont les choses se sont clôturées, se sont closes, vraiment il y a lieu de parler et de la colère et de la déception. Sinon Alain, je crois aujourd'hui tout le monde, je pourrais pour ne pas être vraiment inclusif, exclusif, je pourrais dire que petit à petit l'évolution des choses commence un peu à donner raison au RASOP limité. Parce que pour cette frange du rassemblement, c'est que le vrai rassemblement, c'est eux et non les autres. Parce que si vous remarquez bien, déjà avant égale après tripartite, no change, il n'y a pas de changement. Si vous remarquez, il n'y a eu aucune grande décision selon les attentes de la population. Troisièmement, vous remarquez, les confrères l'ont dit avant moi, c'est qu'on remarquerait un certain rififi caché entre les supposés, donc les enfants du rassemblement, entre guillemets, je vais citer ici le Premier ministre et le président du CNSA. Donc, si aujourd'hui ils ne savent pas se mettre d'accord, si aujourd'hui ils ne parlent pas le même langage, il y a lieu que l'on s'attende à ce que l'on ne souhaite pas. Je vais sortir en disant que tout ceci, c'est parce que, apparemment, on dirait que les trois institutions, les trois composantes de la tripartite navigueraient à vue. Elles n'auraient pas de boussole. C'est comme si on serait en train de réagir par rapport aux questions d'actualité. Parce qu'il y a ceci dans la population, parce que l'opinion dit ceci, faisons cela, convoquons ceci. Donc c'est un peu ça, et c'est vraiment dangereux pour une nation, surtout quand on négocie un grand virage qui est l'alternance politique.
Ali Boukassa, certains analystes pensent que le pays est en train d'aller droit dans un mur et que la situation va s'enliser et aller de mal en pis.
C'est le cas de le dire, Alain, parce que quand vous voyez un CNSA céder vraiment intrinsèquement son rôle, aujourd'hui c'est un accompagnateur, un évaluateur, un inspecteur ou un observateur de tout ce qui s'est fait. Donc c'est dangereux, et encore une fois de plus, il y a lieu que les concernés se remettent en cause, et parce que la nation compte sur eux.
Richard Chaco, en guise de solution, il y a plusieurs voix qui s'élèvent, certains pour réclamer un troisième dialogue. Le RASOP Limité campe sur sa position en parlant d'une transition sans Kabila, et la majorité, dans sa grande partie, pense que les choses vont mieux.
Je crois que troisième dialogue, je ne partage pas ce point de vue, mais comme on est à la quête de l'inclusivité, le camp Rassemblement Limité, s'il faut le dire, qui est resté hors jeu, et aussi joue comme, je peux dire, comme à l'observateur, voir ce qui ne va pas marcher et tirer des déçus. Je crois que j'ai appris que le président Sassou, qui est actuellement le président de la CIRGEL, s'était entretenu avec Félix Tshisekedi à Brazzaville. J'ai appris dans les informations informées ou dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est le rôle de la sous-région, la CIRGEL. Je vois la SADEC, on peut tout dire sur cette communauté sous-régionale. Mais je crois que le président Sassou doit aussi jouer son rôle de leadership. Parce que hier, dans la conclusion de la réunion des CIRGEL, on a mis un accent particulier sur la RDC, dont la situation politique et sécuritaire inquiète la sous-région. Je crois que l'implication de la sous-région devra jouer un rôle pour rapprocher. Parce que s'il faut compter sur le plan interne, chacun reste campé dans sa position. Le Rassemblement Limité dit au 31 décembre, s'il n'y a pas élection, il faut aller à la transition sans Kabila. Les restes, non, il faut aller au-delà. Tantôt, on parle de 540 jours et encore, faut-il 540 jours, on ne sait pas quand, parce qu'on n'a pas encore programmé l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Là, encore, c'est un problème. Est-ce qu'on va ouvrir le bureau d'enrôlement dans tous les pays, dans tous les consulats? On ne sait pas. Je crois que l'implication de la CIRGEL est vraiment vivement souhaitée pour chercher à ce que l'atterrissage ou la date du 31 décembre 2016 soit passé dans les calmes. Sinon, comme vous l'avez dit, nous allons tout droit vers les murs.
José Bohoto, quel rôle devrait jouer la communauté internationale? Richard Chaco pense qu'il faudrait une plus grande implication, mais on l'a vu, la communauté internationale a accompagné la RDC à l'accord du 18 octobre, à l'accord du 31 décembre. Finalement, elle donne l'impression d'être également essoufflée.
Oui, c'est là de par la faute des politiques congolais, en fait. Le problème, c'est que Alain, on a affaire à une classe politique qui n'est pas très correcte aussi, hein, vis-à-vis de la population. Parce qu'on a entendu, c'est que Nanga, ou non, c'est pas Nanga, c'est l'autre là, c'est le porte-parole, il s'appelle Kalamba, je crois. Hein,
de la CENI,
Jean-Pierre Kalamba. Il a dit que les fameux 504 jours, que les Congolais tournent en dérision maintenant avec le Peugeot 504, hein, enfin, voilà, enfin, on a un peu le sens de la dérision au Congo, hein, j'aime ça, j'aime le sens de l'humour que les Congolais ont. Les 504 jours, il paraît que Nanga en avait parlé lors de discussion de la Saint-Sylvestre, en fait, de l'Union africaine. Et même au niveau de la CENCO aussi, il paraît. Mais les politiciens lui avaient dit en son temps que non, réservez-nous, donnez-nous ça nous-mêmes. Mais il faut pas les dire à la population, nous-mêmes, on va s'arranger pour comment le faire passer au niveau de la population. Vous comprenez qu'il y a une sorte de, bon, je veux dire, même si la communauté internationale s'est impliquée aujourd'hui, Alain, mais du moment qu'il n'y a pas de bonne foi, je dis pas de bonne foi, bon, les politiciens par nature, ça c'est mon grand-père qui le disait en son temps personnel, qu'un politicien, quand il dit toi tu es un politicien, c'est que tu es un menteur. Les politiciens par nature sont des gens qui aiment les compromissions. Mais si nos politiciens se mettaient de plus d'accord pour par un sursaut de patriotisme, comme on a vu lors de la signature le 31 décembre. J'ai vu le 31 décembre. Il y avait de l'émotion il y avait du vrai dans ce que tous ces Congolais-là qui s'étaient retrouvés au niveau du centre de traite du CESE faisaient comme acte, se posaient comme acte ces jours-là. Et si aujourd'hui, ne fût-ce que ce sursaut-là revenait dans le chef de toute la classe politique congolaise, je veux dire, de tous les acteurs politiques congolais, là, l'accompagnement de la communauté internationale pourra faire quelque chose. Mais aussi, longtemps que nos gens, nos politiciens s'étirent, enfin, les uns veulent que les choses aillent, les autres ne veulent pas que ça aille, je pense pas que, même si le pape venait aujourd'hui, lui-même prenait la place de la CENCO, le pape François prenait la place de la CENCO, je vous dis, il y aura des gens qui vont l'injurier deux jours après, et puis on n'aura pas de solution à là. Voilà.
Ali Boukassa, nous allons passer à notre deuxième thème de ce soir, mais très rapidement, pour vous, quelle est la voie de sortie?
La voie de sortie, c'est que il y a lieu que l'on se rappelle que l'on a la vie de toute une nation, de 80 millions de Congolais entre ses mains, et ce n'est pas par hasard que cela arrive. Il y a de quoi, si pas pour soi-même, mais que l'on écrive l'histoire même pour les générations à venir. Vous voyez là où nous allons, c'est encore une fois de plus sur les Congolais que nous devons beaucoup plus compter. C'est vrai que les voisins peuvent nous venir au secours. Nous avons besoin de leurs aides, de leurs idées, parce que quand la barbe du prochain, du voisin brûle, mieux vaut mouiller la sienne.
Richard Chaco, en un mot, quelle est la voie de sortie pour vous?
Moi, la voie de sortie, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique dans les chefs de nos acteurs politiques, s'il faut le dire. Une vraie volonté politique. Si tout le monde sait que c'est impossible d'aller aux élections au 31 décembre, mais il faudra se mettre autour d'une table, pas comme dialogue, c'est partager le pouvoir, mais voir quelle est la voie de sortie, se mettre d'accord, et puis que la CENI doit publier vraiment un calendrier, comme on dit, réaliste, c'est-à-dire un calendrier qui répond aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Sinon, c'est le chaos.
Je sais, Boroto, quelle est la voie de sortie pour vous?
Ouais, la voie de sortie, c'est que, comme vient de le dire Richard, que nos politiciens deviennent des vrais politiciens.
Qui se surpassent.
Il n'y a que ça. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas se surpasser, Alain, peu importe ce qu'on va nous donner. Parce qu'en fait, la solution du problème congolais, c'est au niveau des Congolais. C'est pas au niveau de l'extérieur. C'est juste ça, quoi. C'est comme va dire quelqu'un là. Si vous ne prenez pas conscience de votre état de pécheur, vous ne pouvez pas être sauvé. Enfin, hein, ça, c'est les chrétiens hein, qui disent ça, quoi. Merci. Alors, en fait, c'est qu'on a comme problème ici au Congo.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La République démocratique du Congo va siéger au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les trois prochaines années, à dater du mois de janvier prochain. Le pays a été élu avec 151 voix sur 193 votants lundi dernier à New York. En réaction, le gouvernement congolais se réjouit du résultat du vote. Écoutez son porte-parole, le ministre Lambert Mende, au micro d'Étienne Kalema.
Nous avons une expérience en matière de droits de l'homme que nous tenions à partager avec le reste du monde. Il y a des partenaires de la communauté internationale plongés dans le Congo bashing qui souhaitaient nous priver de ce privilège. Ils ont échoué, le monde entier et pas seulement l'Afrique, puisque 151 voix, c'est au-delà du continent africain, vient de nous apporter un soutien significatif et nous sommes prêts à partager notre maigre expérience avec le reste du monde dans ces questions importantes que sont les questions relatives aux droits de l'homme.
La candidature de la RDC a en effet été contestée par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme nationales et internationales. Ces organisations ont estimé que le Congo-Kinshasa est un mauvais exemple en la matière. L'Association africaine des droits de l'homme fait partie de ces ONG. Pour son président, l'élection de la RDC au sein du Conseil des droits de l'homme est une mauvaise nouvelle. On écoute Maître Jean-Claude Katende au téléphone de Péléki Pelamondo.
Notre première réaction, c'est que c'est une mauvaise nouvelle, mais une nouvelle qui ne va pas nous décourager dans notre détermination de démontrer à l'opinion nationale ainsi qu'internationale que la République démocratique du Congo n'est pas bon élève en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Nous savons que ce sont principalement les États africains qui, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas aussi des bons élèves en cette matière qui ont soutenu la candidature de la République démocratique du Congo. Nous croyons que dans peu de temps, d'ici la fin de l'année, la République démocratique du Congo sera rattrapée par la réalité parce qu'ils vont encore violer de manière massive les droits des citoyens qui vont manifester pour réclamer l'organisation des élections. Donc ce n'est qu'une partie remise.
Voilà, il nous reste très peu de temps pour cette deuxième partie. Je vous demanderai des réponses brèves. José Boto, vous êtes journaliste indépendant. Dans la foulée de cette élection, plusieurs réactions notamment s'en sont suivies. Les États-Unis qui pensent dans un communiqué que l'élection de la RDC a affaibli le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais elle alimente également le conflit en RDC. Il y a le ministre Justin Bitakwira qui a demander la dissolution des associations de défense des droits de l'homme qui se sont opposées à l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Comment vous avez accueilli ce vote?
Ce vote, moi, je l'ai accueilli plutôt bien. C'est une bonne surprise, c'est plutôt une bonne chose pour notre pays, en fait. Enfin, moi, je suis plutôt en train de plaindre tous ceux qui se réjouissent de cette victoire, hein, je veux dire, de cette victoire diplomatique. Bon, à court terme, c'est vrai que c'est vraiment une victoire diplomatique, hein, parce qu'avec tout ce qu'il y a eu, comme M. Mende l'a dit, les Congo bashing qui s'observe au niveau international, au niveau national avec les ONG des droits de l'homme. Mais à terme, je vous dis, Alain, cette élection pourrait participer à la mise en lumière des graves atteintes aux droits de l'homme l'homme qui sont perpétrés dans notre pays, hein, qui sont perpétrés dans notre pays. Hein, et notre pays doit s'attendre à ce que cette situation de toutes les situations de droits de l'homme, des violations de droits de l'homme qui s'observent ici, soient examinées en profondeur, parce que la RDC fera partie des pays-là. Elle doit être transparente dans ce qu'elle fait. Et tout ce qu'il y a comme... comme on voit généralement, qu'on empêche qu'il y ait enquête enquête sur les violations de droits de l'homme ici, je pense que notre pays doit s'attendre à être vraiment mis en lumière, quoi. Voilà. Et alors, pour ce qui est de la réaction de M. Bitakour, le ministre Bitakour, bon, ça fait partie de, je dirais pas d'une, des macabres théâtre, hein, en fait, voilà. C'est ça, quoi. Comment on peut dissoudre les ONG de droits de l'homme, ça c'est... Bon, il parlait juste pour la consommation, quoi, pour la consommation, sûrement de ces partisans qui sont là en train d'attendre qu'ils parlent pour que, ils disent que Mkounzami Charles Bakina à la radio ou à la télévision, quoi, voilà.
Richard Chaco, rédacteur en chef à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir, victoire diplomatique, piège, quoi, pour la RDC, comment vous également vous avez reçu cette élection?
Bon, victoire diplomatique, il y a de quoi aller dire, parce que, vous savez, au regard de l'adversité, vous avez dit qu'il y a eu beaucoup d'ONG qui se sont opposées à la candidature, ou l'élection plutôt de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et même, vous avez dit, les États-Unis d'Amérique qui se sont opposés à cette candidature-là. Mais le fait que la RDC ait récolté 151 voix sur les 193, c'est quand même une victoire. Mais s'il faut comparer par rapport à d'autres pays africains qui ont été aussi élus dans le Conseil des droits de l'homme. Si vous prenez l'Angola a 187 voix sur les 193, le Nigeria a 185 voix sur les 193, et le Sénégal 188 voix. Ça veut dire que de tous les quatre pays africains qui ont été élus, il n'y a que la RDC où il y avait une forte opposition. Et bon, il y a quoi? Mais au moins, on dit victoire diplomatique, c'est vrai, mais c'est aussi une responsabilité. On ne doit pas se réjouir comme ça, mais maintenant, on doit suivre la RDC à la loupe, pour comme heureusement le ministre des médias qui est propre du gouvernement a dit, nous allons partager, je cite, notre maigre expérience en droits de l'homme. On sait que la situation des droits de l'homme en RDC n'est pas reluisante, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Plusieurs fois, le bureau de coordination des Nations Unies des droits de l'homme a fait des rapports dans le hebdomadaire pour dénoncer les violations massives des droits de l'homme ici au pays. Maintenant, on va voir maintenant comment la RDC va se comporter. La ministre des droits humains l'a aussi dit que on va maintenant lutter contre l'impunité. Je crois que il faut donner un exemple. C'est comme si dans une salle de classe, vous voyez un élève qui fait beaucoup de bruit, on les responsabilise. Toi, maintenant, tu seras les chefs de promotion. On va voir maintenant comment il va commencer lui en tant que chef de promotion. C'est ça aussi le cas pour la RDC. On peut se réjouir maintenant, c'est une grande responsabilité. On veut nous voir, RDC, comment nous allons traiter des questions des droits de l'homme ici au pays.
Voilà, Ali Boukassa, journaliste et coordonnateur de l'agence LUCOM, basée à Mwenedito, dans la province de la Lomami. C'est une grande responsabilité pour la RDC, disent Richard Chaco et José Booto. Mais certains analystes estiment que la suggestion du ministre Bitakwira de dissoudre les ONG qui n'ont pas soutenu la candidature de la RDC, c'est un très mauvais exemple aussi au moment où la RDC est en train d'accéder au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
C'est une comédie. Je ne vais même pas commenter cela. Parfois, on tombe plus bas que terre, et c'est le cas de le dire. Cependant, avant même d'aller plus loin, permettez Alain que je dise aussi que j'ai été parmi ceux-là qui souhaitaient l'élection de la RDC, parce qu'aujourd'hui, Congolais, nous devons savoir nous départir des sentiments et supporter ou soutenir notre patrie. Si un arbre donne des mauvais fruits, j'y arrive, il n'est pas question qu'on brûle le sol ou la terre, non. Si on est contre certains gestes et faits du gouvernement en place, pour autant il faut haïr son pays. Je crois qu'il y a de quoi mettre de l'eau dans son vin. Alors, que dire de l'élection proprement dite? Les confrères l'ont si bien dit, mais permettez que je fasse suite à cela en ajoutant quelques autres éléments. Cette élection de la RDC au CDH arrive au dernier trimestre de l'année 2017. Et c'est une période prophétisée, si vous le voulez, attention. Et cette élection pourrait jouer le fusible ou le rôle de soupape pour qu'il y ait un certain aménagement de comment gérer tous ces mouvements de protestation, de contestation qui vont arriver. Voilà pourquoi je dis encore, est-ce que les autres pays, les autres États membres du CDH n'ont-ils pas vu les choses de cet angle, de cet œil-là, pour prévenir un amortissement des tensions à venir? Ça, c'est un élément. Un deuxième élément ou une autre dimension d'analyse, c'est que est-ce que la communauté internationale serait en train de jouer le jeu double? Parce qu'aujourd'hui, vous avez évoqué le cas de l'intervention du ministre de médias, porte-parole de notre gouvernement, le ministre Mende, qui aujourd'hui se trouverait à Bruxelles. Alors qu'avant ça, on parlait, on évoquait les sanctions à gauche, à droite. Tout ça, il y a de quoi évoquer un peu une certaine duplicité dans la dialectique, dans le langage de la communauté internationale. Tout compte fait, la RDC est élue au CDH, bravo, et je crois que c'est une corde qui soutient le pendu. Il y a de quoi donner notre expérience au monde en termes de promotion et de défense des droits de l'homme. La RDC, je suis parmi ceux qui croient et qui disent que c'est pas de l'enfer. Il y a quelque chose qui va au Congo, quand bien même il y a beaucoup à améliorer.
Ali Boukassa, je vais vous demander de conclure, parce que dans très peu de temps, l'émission est en train de toucher à sa fin.
Dans très peu de temps, je voudrais que le gouvernement, par rapport à l'actualité en Lomami, dans ma province, dans ma ville de Mouéditou, j'aimerais que le gouvernement national, ici le Premier ministre, donne un peu les sons clairs par rapport à ce qui crée la polémique entre les opérateurs économiques et certains services générateurs de recettes, parce que la ville de Mouéditou sort d'une noirceur après, au lendemain du passage triste de Kamouina-Nsapu pour supposer. Je crois que on a besoin d'un traitement particulier par rapport à l'économie qui souffre, par rapport au social qui est criant dans cette province.
Merci.
Deuxièmement, par rapport à la tripartite, je crois que les uns et les autres ont suivi l'alerte que nous avons signée dans cette tribune. Ils sauront prendre à bras le corps leurs responsabilités. Pour terminer par l'élection de la RDC, bravo à notre gouvernement et prouvez au monde que ceux-là qui ont protesté notre élection et notre candidature avait tort.
Merci Richard Chaco. Conclusion.
Je vais conclure par le dernier dossier de notre émission, c'est l'élection de la RDC au CDH. Je crois que la RDC, au regard de l'adversité de toute l'opposition qui a régné pour l'élection de la RDC doit maintenant doit capitaliser cela. La RDC, les autorités congolaises doivent se regarder dans les miroirs. Est-ce que réellement tout ce que les gens nous reprochaient n'avait-il pas raison? Je crois que c'est ça aussi. Il faut se regarder dans le miroir, se rendre à l'évidence pour voir réellement. Je crois que comme la RDC a pris l'engagement de lutter contre l'impunité, réellement c'est l'impunité, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi ceux qui sont, par exemple, les auteurs des violations des droits de l'homme, ceux qui sont promis au sein de la, je prends les cas de l'armée. Mais je crois que la RDC doit capitaliser ces remarques-là pour réellement être les bons élèves. Parce que la RDC, membre de la CDH, les CDH, c'est une fierté, mais une responsabilité. La RDC doit vraiment prouver que vraiment il a mérité d'être membre du CDH.
Merci, José Boto. Conclusion.
Ma conclusion, c'est par rapport au processus de démocratisation de notre pays et surtout par rapport à la dernière réunion, la tripartite gouvernement CENI-CENSA. J'aimerais que les acteurs politiques congolais soient des gens sérieux dans les engagements qu'ils prennent pour que notre pays ne soit pas toujours la risée de tout le monde, quoi. On est un modèle pour l'Afrique, Alain. On a essayé de parcourir un peu l'Afrique. On a des avancées au niveau démocratique, en termes de liberté d'expression, en termes de certaines choses. Maintenant, il faut les capitaliser et aller un peu plus loin, parce que notre pays sera, si on prend au sérieux notre rôle, notre pays sera un précurseur au niveau de l'Afrique.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse est terminée pour ce soir. Réalisation Guy Maté. Alain Goy était à la technique. Supervision Pélé Kipelamondo. Présentation et coordination Alain Irung Mouchinj. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir.